France Inter.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Si j'avais pu, j'aurais déniché une licence de serbo-croate à l'autre bout de la France pour pouvoir quitter la maison et être enfin indépendante. J'ai été plus sage, j'ai attendu l'école de journalisme, mais je me demande si inconsciemment je n'ai pas fait exprès de rater les concours à portée de RER. Le saut du nid que peut-être l'un de vos enfants s'apprête à faire, ou vous peut-être, jeunes gens, qui allez poursuivre des études loin de chez vos parents. Le saut du nid, c'est ce que vous allez nous raconter ce soir à quelques jours de la rentrée étudiante. Le saut du nid, c'est une histoire d'autonomie, mais aussi de peur. C'est une histoire d'indépendance et parfois d'angoisse. C'est un rite de passage attendu ou redouté. Vous quittez le foyer de votre enfance contraint comme on rechigne à sortir de sa couette le matin. Vous quittez le foyer de votre enfance en courant après avoir fait des croix sur les murs de votre chambre d'enfant comme avant la quille. Et vous nous raconterez. On quitte rarement son enfance comme on arrache un pansement, à moins d'être dans un foyer évidemment dysfonctionnel. Comme vous, peut-être. Moi, j'ai passé une sorte d'accord silencieux avec ma mère à qui je ne voulais pas montrer que je n'avais plus besoin d'elle. J'ai donc attendu longtemps avant de ne plus rentrer avec mon linge sale et jamais dit non au Tupperware qui occupait l'essentiel de mon sac à dos le dimanche soir dans le train retour et mon frigo donc pour la semaine. Et je vous parle d'une époque en plus où Airbnb n'existait pas, où les logements étudiants n'étaient pas hors de prix, où il vous suffisait de la caution de vos parents et pas celle de la reine d'Angleterre. Cet aspect-là, aujourd'hui, c'est l'un des critères qui détermine un départ et surtout les conditions de ce départ. Être autonome, quitter ses parents, réaliser de première main combien la vie c'est cher, être autonome et réaliser que la vie c'est la liberté, bien sûr c'est grisant, la coloc c'est joyeux, mais c'est aussi un précipice, l'envie, l'excitation, la peur, le stress, la solitude, l'abysse de la gestion du temps, les courses, la cuisine, les cours, le boulot. Au passage, le stress, la crainte, l'angoisse, c'est aussi valable pour les parents. On attend toute la famille. C'est le téléphone sonne ce soir. Soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Esther, c'est vous la première. Bonsoir Esther.
Bonsoir.
Racontez-nous.
Eh ben, écoutez, moi je viens de déménager à Nanterre, donc en région parisienne, pour suivre une année de prépa littéraire, donc je suis en Hippocagne, et j'habitais avant à Quimper, en Bretagne, et voilà, donc c'est le grand changement, parce que j'habite seule, enfin, en coloc, et que j'ai quitté mes parents pour la première fois. Donc voilà.
Et du coup, sur l'échelle de 1 à 10, est-ce que vous êtes plutôt j'ai un peu la trouille, je suis super excitée au contraire? Où est-ce que vous êtes, vous, Esther?
Je dirais que c'est un peu un mélange des deux. Donc, je dirais 6 en niveau d'excitation de vivre seule, parce que ma famille me manque beaucoup quand même, mais que la liberté prend le pas un petit peu.
Qu'est-ce qui vous fait le plus peur en fait? Parce que j'imagine bien, enfin moi je me souviens de ça en fait, il y a l'excitation du démarrage, c'est génial parce qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut manger ce qu'on veut,
exactement.
On peut faire ce qu'on veut, sortir sans donner, demander de compte à qui que ce soit. Et puis quand même, après, enfin ça s'appelle la vraie vie quoi, c'est pas si simple la vraie vie ici, Esther.
Ouais. Non, exactement, il y a quand même les petits tracas du quotidien, pense à faire ses lessives, à faire la vaisselle, et puis à ranger sa chambre, son bureau, et puis payer le loyer, et faire les courses, et gérer son budget, et tous les petits trucs de la vie d'adulte qu'on apprend un peu petit à petit. Mais mes parents sont quand même assez présents. J'ai vraiment de la chance d'avoir des parents qui m'aident dans cette nouvelle étape de ma vie. Donc, je me sens quand même assez privilégiée.
Et est-ce que, après je vous laisse, c'est promis, Esther, Hippocagne, c'est sérieux et surtout c'est compliqué, c'est difficile, il va y avoir des grosses périodes de travail. Est-ce que le fait de devoir travailler seul, en fait, au final, d'être dans votre petite chambre et puis il faut se débrouiller, donc sans éventuellement les parents qui peuvent de temps en temps dire file travailler ou donner du courage, est-ce que ça fait un peu peur ou pas?
C'est vrai que ça faisait un peu peur, mais j'ai la chance d'être en coloc avec une amie avec qui on va dans la même prépa. Donc c'est vrai qu'on arrive à se motiver toutes les deux et à se donner des conseils, des techniques. Moi, je suis peut-être plus forte dans une matière et elle dans une autre. Et donc on arrive en soi à se motiver mutuellement. Donc après, c'est que le début, mais pour l'instant, ça va.
Eh bien, écoutez, on croise les doigts pour vous. Il n'y a aucune raison que ça n'aille pas, Esther. Merci beaucoup. Merci vraiment pour cette jolie entrée en matière. Pour discuter ensemble jusqu'à 20h autour de la table, il y a Emmanuel Monaï. Bonsoir. Vous êtes maîtresse de conférence en sociologie à l'IUT de Rennes. Il y a Béatrice Queperoyer. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychologue clinicienne spécialisée dans l'enfance et l'adolescence. Et il y a aussi Olivier Rey. Bonsoir, Olivier Rey.
Bonsoir.
Vous êtes le président de l'Observatoire national de la vie étudiante. Vous êtes en duplex depuis le bureau de Radio France à Lyon. On salue, on remercie nos amis. Tiens, j'ai commencé avec vous, Béatrice Queperoyer, la psychologue clinicienne. Elle a l'air très armée, notre amie Esther.
Oui.
En fait, vraisemblablement.
Elle a l'air très armée, elle a l'air très confiante et elle a confiance en ses parents. Et donc, elle dit une chose intéressante, c'est que d'abord, elle est ambivalente. À la fois, elle est très, très excitée et à la fois, elle a un peu peur, ce qui est tout à fait normal. Mais elle sent que ses parents sont quand même pas trop loin et que si elle en a besoin, elle peut avoir recours à eux. Donc ça, je crois que c'est quelque chose qui la rassure beaucoup. On sent qu'elle est tout à fait prête, hein, mais c'est intéressant parce qu'elle dit c'est la gestion finalement du quotidien.
Mais la gestion des contraintes.
Des petites choses et qu'elle a manifestement pas forcément l'habitude de faire et qui la renvoie effectivement à une vie d'adulte pas assistée tous les jours par une mère ou un père dévoué.
Ça, c'est ce que vous voyez, Olivier Rey, vous, à l'Observatoire national de la vie étudiante. Les études, c'est une chose. Bien sûr, tout le monde sait qu'il va falloir travailler, donner le meilleur de soi-même. Et puis, il y a tout ce qui va autour. Et c'est souvent le tout ce qui va autour qu'on a oublié en route quand on vient de s'installer.
Oui, et puis je pense qu'il ne faut pas perdre de vue qu'être étudiant, c'est aussi faire un apprentissage de l'autonomie dans les études et puis de l'autonomie dans la vie. Et quelque part, cela participe de l'expérience étudiante. Et c'est ce qui fait qu'à l'issue de ces études aussi, quand on a réussi à passer toutes ces épreuves, à en faire un apprentissage réussi, eh ben, on est un diplômé qui non seulement a appris des choses, a acquis des connaissances, des compétences, mais qui a aussi appris à se débrouiller dans la vie. Je crois que c'est quelque chose de relativement important qu'on a parfois perdu de vue en France. C'est pas partout pareil. Il faut voir que dans des pays, la norme, c'est quasiment d'aller le plus loin possible, ou du moins de pas rester dans la même ville quand on commence des études. Par exemple, en Grande-Bretagne, il est assez rare que l'on fasse des études dans la ville où on a grandi, même si c'est une grande ville universitaire. Nous, en France, c'est vrai qu'il y a encore 33% des étudiants qui vivent chez leurs parents.
Après, pour alors, des questions financières, par ailleurs.
Voilà.
Si tout le monde pouvait partir, il le ferait, j'imagine.
Bien sûr, notamment en Île-de-France, où notamment les étudiants en petite ou grande couronne, c'est très très difficile de trouver un logement à Paris. Mais je dirais, voilà, il y a une ambivalence de ce point de vue-là, mais le plus beau cadeau que l'on puisse faire à des jeunes, c'est de les aider à construire leur autonomie.
Après, je disais en préparant cette émission, Emmanuel Monaï, je trouve ça vraiment intéressant que les filles partent plus tard que les garçons, pardon, partent plus tard que les filles, en fait. Est-ce que c'est juste une histoire d'années d'études qui sont un peu différentes, ou est-ce que c'est aussi une histoire qui dit qu'on est prêt plus vite, qu'on est plus à même, au fond, d'affronter ça, parce que c'est aussi affronter quelque chose quand on est une fille qu'un garçon.
Je pense que c'est peut-être pas une histoire de filles qui seraient plus prêtes, plus tôt, plus matures. En fait, c'est un petit peu ça qu'il y a peut-être derrière la question. Je pense que c'est aussi que la société a construit des trajectoires féminines et masculines qui sont un peu différentes. Et que si les filles... Alors ça, je pense qu'il faut différencier aussi les milieux sociaux, parce que si on regarde les filles qui font des études longues, etc., je suis pas sûre qu'elles partent plus vite chez leurs parents, où elles soient plus autonomes plus rapidement. Peut-être c'est dans les milieux les plus modestes où l'entrée dans la vie adulte pour les femmes reste encore la vie conjugale. Et on sait que les femmes vont commencer leur vie conjugale plus jeune. Et donc finalement, c'est peut-être ça qui explique que les femmes vont partir plus vite dans certains milieux sociaux, pas dans tous en fait.
C'est un cliché de dire que c'est une espèce de rite de passage, Béatrice Queperoyer, ou pas?
Non, je pense que c'est vrai. Il n'y en a pas beaucoup de rites de passage maintenant. Et donc, partir de chez soi, quitter le nid. Hein. Alors, on quitte pas, je dis toujours, c'est qu'on ne quitte pas ses parents et on ne quitte jamais vraiment ses parents. Et quand les enfants partent de chez eux, les parents ne perdent pas leurs enfants. Moi, je vois beaucoup de parents qui sont un peu désarçonnés après le départ de leurs enfants, parce que finalement, finalement, il faut un peu qu'ils se reprogramment, comme si ils avaient été pendant des années, leur vie quotidienne tournait quand même beaucoup autour de la gestion des enfants, puis tout d'un coup, ils sont plus là, et donc il y a des tas de petites choses du quotidien qui changent, et donc il faut qu'ils arrivent à penser les choses autrement, et à surtout à être moins dans le tout contrôle, parce que notamment les générations de parents plus jeunes sont assez assez contrôlants quand même, hein, avec le téléphone, avec oui. tout ça.
Et en FaceTime d'ailleurs, où tu es, est-ce que tu es en train de travailler, oui, montre-moi, non.
Donc c'est un rite de passage et il faut que les parents l'encouragent et surtout ne retire pas, ne mette pas des freins, quoi.
Voilà, lâchez tout. Cécile est à Nantes, bonsoir Cécile.
Bonsoir.
Est-ce que vous avez tout lâché, Cécile?
Oui, j'ai tout lâché, complètement. Moi, mon fils, il a quitté la maison hier, je l'ai aménagé à Angers. Il n'a pas encore 16 ans. Et du coup, l'année dernière, il était en internat, c'était un peu compliqué parce qu'il est en sport-études. Et donc, il vient de rentrer dans son appart avec un colocataire. Hier, on a fait les courses dans le rayon ménager et je leur expliquais comment faire le ménage, quel produit, pourquoi. Il y avait des personnes âgées qui rigolaient derrière nous. Et j'étais tellement contente de les voir tous les deux. Et il m'a dit qu'il allait vivre sa meilleure vie. Voilà. Et puis, bien sûr, je fais les tupperwares le week-end. Hein, donc... Ben oui, mais c'est génial. Et vraiment, je suis hyper contente, moi, de les voir s'épanouir, quoi.
16 ans, enfin, pas tout à fait,
pas
15
encore,
ans même.
Pas encore,
ouais, pas encore 16 ans, ouais. C'est jeune, hein.
Ouais.
Cécile, ils sont à peine sortis de l'adolescence.
Ah, mais il n'est pas du tout sorti de l'adolescence, hein. C'est un vrai ado, hein. Il n'y a pas de sujet.
Et du coup, mais ça veut dire que vous allez surveiller de plus près, enfin, là, pour le coup, s'assurer que ils bossent, ils sont pas en train de faire les fous, etc. Il faut être derrière, à distance.
Ah oui, moi, ça me fait peur, ça. Effectivement, là, va falloir que les notes, elles suivent, parce que c'est quand même un investissement financier pour les parents.
Ouais.
On a notre fille qui est à Rennes, qui est partie l'année dernière, et qui est hyper heureuse aussi. Je vois la transformation, c'est génial. Et par contre, notre fils, oui, on va être hyper au taquet, et on lui a dit, quoi. Mais bon, voilà, déjà hier, il y avait des copines qui sont venues manger. Enfin, voilà, c'est leur meilleure vie, quoi. Et je pense qu'il va vraiment grandir, il va vraiment se rendre compte de choses, ils vont faire leur lessive, ils vont faire, enfin, tout, quoi. Donc...
Ça va les faire grandir, comme vous dites, ouais. Cécile. Merci beaucoup, Emmanuel Monnayer. Ça fait grandir, et ça fait grandir plus vite, en fait, aussi. J'ai presque envie de dire trop vite, à certains égards, non ?
De partir,
ouais,
de partir
si tôt, de partir à 15 ans.
Oui. Certainement que ça fait grandir plus différemment, en tout cas de ceux qui partent à des âges peut-être 18, 20 ans. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi dans cette question-là, c'est de savoir, quand vous dites 16 ans, c'est trop tôt ou c'est très tôt, est-ce qu'il y a un bon âge pour partir?
Bien sûr, ça dépend tellement qui, on
voilà.
est d'accord.
Et donc, en fait, est-ce que 25 ans, souvent, voilà, et c'est très difficile quand on interroge des jeunes concernés de savoir, ou même voilà, des parents, à quel âge faut-il partir de chez ses parents? Eh bien, les réponses sont c'est un peu comme quand il sera prêt, en fait, qu'on sentira que ça ira. Mais il y a un mais quand même, parce que la société dit qu'à un moment, il faut quand même être parti, qu'il y a une norme qui dit que les générations doivent se séparer. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire, et 16 ans, effectivement, par rapport aux normes attendues, 16 ans, c'est jeune, parce qu'il est encore mineur,
Parce qu'il est compliqué certainement. Quand on est très jeune comme ça, c'est qu'il peut y avoir un éventuel retour aussi, en fait.
Oui.
Et le retour, une fois qu'on a goûté à la liberté,
ça
peut être compliqué.
Difficile. On le voit assez souvent. Moi, j'en vois des jeunes qui partent pour leurs études, par exemple, un an, deux ans, parfois un an seulement, et ils reviennent chez eux. Et là, c'est très difficile de se remettre au pas, d'accepter une vie de famille.
Ouais.
Les parents disent c'est pas l'hôtel, donc il y a quand même des règles de famille à respecter.
Et accepter les contraintes. On se souvient de la période du Covid où beaucoup sont rentrés et subitement...
Oui, ça a été très dur.
Voilà, on se retrouve avec effectivement des injonctions qu'on avait perdues de vue. L'aller, le retour, parce que c'est compliqué, c'est votre histoire à vous, Samia, ou celle de votre fille, hein, on vous écoute.
Oui, bonjour. Donc moi, ma fille Luna était partie en métropole, donc on habite à Réunion, elle est partie faire sa première année d'études après le bac. Donc elle est allée faire une année de droit sur l'île, et en fait, même si on était en contact régulièrement par téléphone. On s'est aperçu, elle nous a annoncé au bout d'un an qu'elle ne supportait pas la vie loin de nous. Donc en une semaine, on a dû la faire revenir à La Réunion, où elle a fait sa licence 2 et licence 3. Et comme à La Réunion, il n'y a pas toutes les formations, donc là, depuis hier, elle a fait sa rentrée à Paris. Donc là, elle est plus mature, plus décidée, et on croise les doigts, mais j'ai l'impression qu'elle va très bien.
Eh ben, écoutez, on croise vraiment les doigts aussi pour vous. Il y a eu un autre message sur WhatsApp de parents qui disent les enfants qui viennent d'outre-mer, etc., il faut les regarder avec beaucoup plus d'attention, parce qu'effectivement, quand les parents manquent, c'est tellement plus difficile. Enfin, là, pour le coup, il y a l'océan quand même. Olivier Rey, on le sait, ça, on le voit. On y est attentif ou pas? Vous êtes le président de l'Observatoire national de la vie étudiante.
Oui, je crois qu'il y a une question particulière pour les étudiants d'outre-mer, plus globalement pour les étudiants qu'on appelle en hyper-éloignement, c'est-à-dire qu'ils sont très 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 loin de leur famille, parce que ça veut dire qu'ils sont non seulement loin du filet de sécurité que peuvent représenter les proches, aussi loin souvent de leurs amis d'enfance, loin des milieux qu'ils sont habitués à fréquenter. Et je dirais qu'il y a d'abord un peu la nostalgie, l'éloignement, mais il y a aussi à un moment donné, quand il y a l'isolement, quand il y a des coups durs, quand il y a un peu des coups de déprime, parce que ça arrive quand on est seul, on est en novembre, il fait froid, bon, ça va pas toujours comme on veut dans les études, ça peut être très difficile quand on est très 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 loin. Évidemment, c'est pas la même chose d'être à La Réunion, d'être à Quimper, et de se dire que quelque part, dans une semaine ou dans trois semaines, voire même dans un mois, on pourra retourner se ressourcer, et de se dire que non, là, il faudrait acheter un billet d'avion, c'est compliqué, on peut pas, et donc ils font tenir. Il y a une problématique particulière, alors ça touche les étudiants, bien évidemment, des départements et territoires d'outre-mer. Ça touche aussi, je dirais, beaucoup d'étudiants étrangers qui sont très éloignés de leur famille. Alors évidemment, le Covid a été une épreuve particulière de ce point de vue-là, mais on le voit même au quotidien, et je soulignerai l'importance de ce point de vue-là de ce qu'on appellera les réseaux sociabilité, c'est-à-dire les associations, les BDE, les copains, tous les endroits qui peuvent en gros faire du lien et faire qu'à un moment donné, on n'est pas seul, que ce soit pour parler des études ou pour parler tout bêtement de ces petits problèmes de vie quotidienne, d'alimentation, de budget, ou simplement échanger quelques mots de temps en temps.
C'est important, Emmanuel Monnaie, ce que dit Olivier Rey, parce que quand on vient de s'installer, qu'on est jeune, qu'on est seul, il y a évidemment, donc on l'a dit, les choses du quotidien, aller faire ses courses, aller faire ses lessives, etc. Il y a évidemment arriver à s'accrocher pour travailler alors qu'on n'a personne derrière soi. Mais il faut aussi se recréer un tissu social, un lien social, en fait. Sinon, la solitude vient très très vite. Et à qui on parle, avec qui on sort, avec qui on va boire des coups, il faut aussi se recréer ça. Au fond, c'est comme s'il fallait tout recréer. C'est beaucoup moins simple que ça en a l'air.
C'est beaucoup moins simple que ça en a l'air, parce qu'il y a aussi des questions économiques qui peuvent jouer dedans, c'est-à-dire des étudiants les plus modestes qui doivent aussi compter pour pouvoir payer leur loyer, manger, etc., vont avoir aussi peut-être moins d'opportunités d'aller voir des amis.
Et se désocialisent, donc.
Voilà. Et donc, effectivement, la question de la solitude, elle est centrale, parce que habiter seul, c'est aussi se refaire un lien de sociabilité, garder contact avec sa famille, ça, on l'a bien souligné. Et puis, voilà, ce lien de sociabilité qui est extrêmement important pour les jeunes.
Et on l'a bien vu dans l'étude d'aujourd'hui, l'Institut Montaigne et de l'Institut Terram, sur le mal-être et la solitude des étudiants, Béatrice Copé-Royer, des jeunes gens d'une manière générale.
Oui, ce que je vois aussi chez les jeunes qui partent comme ça de chez leurs parents, notamment, je vois pas mal de garçons et de filles assez privilégiés qui partent par exemple faire des études au Canada, assez loin quand même. Mais il y a une part d'imaginaire, et ils imaginent avant de partir, que ça va être
il y a un gros
sensationnel.
Fantasme,
hein. Et puis finalement, arrivé là-bas, j'en ai vu plusieurs, ils se rendent compte qu'effectivement, ils sont seuls. Il faut se refaire un réseau d'amis, etc. Et ça va pas de soi. Et comme ils n'ont pas l'appui des parents qui sont très loin, ils peuvent tout d'un coup avoir des coups de mou importants.
Et puis la chambre est toute petite, et puis c'est beaucoup moins beau autour que ça en a l'air.
Entre le rêve et la réalité, il y a souvent un moment de déception qu'il faut d'ailleurs surmonter, et que quand c'est comme ça, il faut que les parents soient effectivement étayants mais pas trop angoissant. Vous voyez, mettre un mouchoir sur leur, sur leur propre anxiété.
Et peut-être pas dire trop rapidement « rentre, chérie, si tu veux, surtout pas ». Je vois que ça fait rire Emmanuel Monnaie. Oui, surtout, surtout pas. En tout cas, pas tout de suite.
Ce qui était intéressant aussi dans les témoignages qu'on a entendus et qui peut aussi être des éléments pour lutter contre la solitude, c'est la colocation.
Ouais.
Puisque là, il y a eu deux témoignages où effectivement...
Enfin, c'est tellement la première solution de toute façon pour une question financière.
Mais il n'y a pas que ça. J'ai travaillé sur ces questions de colocation, l'entrée en colocation et en fait, la dimension de... Voilà, on entendait beaucoup dans les entretiens, j'ai choisi la colocation parce que je ne voulais pas être seule.
Bien sûr.
Ou cette dimension de solitude. Et puis ça, c'est aussi se faire une organisation gérée avec d'autres, etc. Et donc, c'est assez intéressant. Ça permet de mettre en perspective ces questions-là.
Et se recréer une famille, parce qu'il ne faut pas oublier, on va retourner au standard dans un instant, Béatrice Copé-Royer, que si on s'en va au moment de la maîtrise, etc., on est déjà un jeune adulte, si on s'en va juste après le bac, de toute façon, même quand on ne s'en va pas, en fait, les amis du bac, c'est des amis en général qu'on en garde un, on en garde deux, mais le vrai tissu des amis va se faire après, en avançant dans l'âge adulte. Donc on saute vraiment dans le vide quand même.
Bien sûr, on saute dans le vide quand ils partent comme ça loin...
Emmanuel Monnaie qui fait « Oui, ils vont peut-être pas pousser non plus
!» Quand même non, parce un peu, que... non. Oui, mais en même temps, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand vous disiez, il y a les amis de l'endroit local d'où on part, et en fait, le départ, la décohabitation, c'est petit à petit couper ce lien entre son lieu d'origine, le lieu d'arrivée, on va dire, transformer les relations avec sa famille. Et puis souvent, les étudiants, lorsqu'ils partent, en tout cas, ils vont dans une autre ville pour faire leurs études, souvent, le week-end, ils disent je rentre chez moi. Ils disent pas je rentre chez mes parents, hein. Ils disent je rentre chez moi, où il y aura les amis, et puis petit à petit le langage va changer, ils vont dire je rentre chez mes parents.
Chez moi,
et donc c'est quelque chose qui bascule à ce moment-là, mais après c'est pas une affaire de temps, c'est une affaire d'avoir construit son chez-soi, justement, qui n'est plus chez ses parents, mais chez soi. Donc, il y a tout un jeu sur ces manières de se construire.
C'est une gymnastique psychologique importante de passer de chez mes parents à chez moi. Il faut quand même, justement, ne plus être en référence constante dans ses choix, dans l'organisation de sa vie.
C'est les parents qui doivent aussi... c'est une négociation qui est faite entre les parents et les enfants.
Ce que ça veut dire aussi, c'est qu'on n'est plus obligé de rentrer tous les week-ends, par exemple. Enfin, en tout cas, il ne faut pas se sentir obligé non plus de rentrer tous les week-ends pour pouvoir créer son chez-soi, en fait.
C'est ça, oui. Et puis, en fait, ça montre bien que entrer dans la vie adulte, c'est négocier avec ses parents de nouveaux liens familiaux qui ne sont plus d'enfants à adultes, mais d'adultes à adultes, réclamer d'être reconnu comme tel, quoi.
Et moi, je dis toujours aux parents de garçons et de filles qui partent comme ça et qui se désolent que c'est formidable d'avoir des rapports avec des enfants devenus adultes, parce que c'est extrêmement enrichissant, qu'on n'a plus le souci de l'éducation et qu'il nous apporte énormément. Donc, c'est une perspective très réjouissante.
Voici Émilie qui nous attend depuis un moment. Bonsoir, Émilie.
Oui, bonsoir à tous.
On vous écoute.
Tout simplement, en fait, j'ai témoigné sur WhatsApp. Je disais que moi, je suis partie de chez mes parents à 19 ans. Et en fait, je cochais un peu toutes les cases de la jeune adulte hyper bien dans ses bottes, la tête sur les épaules, sociable, indépendante. C'est sur le papier, c'était ok quoi. Personne n'avait peur. Mes parents étaient, voilà. Moi, j'avais pas peur de partir. Et puis finalement, quand on se retrouve le soir toute seule dans son logement, finalement, c'est quand même pas si évident. Et voilà, et je voulais juste mettre en garde les parents. Et je pense qu'il faut pas hésiter à être un petit peu lourd. Moi, j'ai bien apprécié que ma mère me rende visite, à l'improviste et tout ça. Ça m'a fait vachement de bien parce qu'en plus, on se sent coupable. On se dit, mais enfin, c'est moi qui demande à partir. Tout allait bien sur le papier. Je comprends pas qu'est-ce qui m'arrive. On est vachement surpris. J'ai pris vachement de poids. L'humeur n'y était plus. Bon, je vous assure, après, tout s'est super bien passé. Quand on va bien, ça finit toujours. Mais voilà, ce moment de transition, il ne faut pas hésiter quand même à être un petit peu lourdeau en tant que parent. Et moi, je m'en rappellerai bien parce que j'ai un ado qui est de 15 ans. Donc voilà, je sais que je garde ça.
Donc vous êtes un peu lourdote avec votre ado de 15 ans. Il le sait déjà. Il vous écoute, il le sait.
Ouais, exactement.
Il s'est préparé voilà. psychologiquement. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci beaucoup. Elle a raison, notre auditrice Olivier Ray. Là où il faut faire attention, c'est que si on y prend garde, c'est aussi facteur de décrochage hein, quand on se sent pas bien en étant seul pour la première fois et faire des études en même temps.
Bah oui, tout à fait. Bah, après, ça change durant les études. Esther est en classe prépa avec beaucoup de cours, d'école, hein, pas les punitions, mais des séances de révision. Mmh. Donc, on a encadrement serré, une coloc en plus qui fait la même chose qu'elle. Mmh. C'est pas la même chose de quand on se retrouve en première année de licence de droit, un peu livré à soi-même, qu'il faut choisir quel cours on assiste, lesquels on choisit ou non d'y assister, comment on organise son travail scolaire, si on a un petit job à côté, comment on arrive à répartir les deux, comment on fait des révisions, est-ce qu'on va à la bibliothèque, est-ce qu'on va en reste chez soi. Là, il y a des enjeux très forts et effectivement, si on se sent mal, on peut glisser, on peut décrocher et de ce point de vue-là, être dans un milieu bien intégré, ben, c'est un beau facteur de persévérance. Et on sait que dans certaines filières, ben, la persévérance, c'est le meilleur moyen de réussir. Hein.
Ce que ça veut dire aussi, Emmanuel Monnaie, c'est que ça se prépare. C'est comme tous les grands sauts qu'on fait dans la vie, en fait. Il faut un peu anticiper sur ce qui risque d'être compliqué, ce qu'on éventuellement de mettre sur une colonne pour, une colonne contre. Ce que je vais adorer, c'est ça, ça, ça. Ce qui va être plus difficile, c'est ça, ça, ça. Enfin, ça se prépare, quoi, le saut du nid, non ?
Ben, si on était rationnel, effectivement, je pense que ça devrait se préparer. Mais les enquêtes, les entretiens qu'on peut réaliser, on se rend compte que j'ai l'impression que c'est pas vraiment. Enfin, c'est préparé, mais c'est pas tellement anticipé non plus. Il y a quelque chose du saut un peu dans l'inconnu, peut-être, mais pas forcément très, très organisé.
Puis, alors, des fois aussi, c'est l'acceptation d'une école qui vous dit oui, vous vous y attendiez pas, subitement, il faut partir à Montpellier, c'est un peu bouf.
Et puis, l'auditrice là, qui disait je suis allée avec les ados acheter les trucs pour le. Et puis, je leur ai dit un petit peu comment faire la cuisine. Donc, ça veut dire qu'ils ne le savaient pas forcément.
Oui.
Et peut-être qu'en tant que parent, préparer ses enfants à partir, ce n'est pas non plus très facile. C'est-à-dire, on ne dit pas à son enfant, tu vas partir. Il y a quelque chose de... Comme disait l'auditrice aussi, les parents n'hésitaient pas à être lourdeaux avec leurs enfants. Je pense que ce n'est pas si évident que ça. Parce qu'en tant que parent, on va se dire, oui, mais si je la s'appelle tous les jours, je n'ai peut-être pas assez pour le
Mais c'est pareil de l'autre côté, en fait. Hein. Ouais, les parents se posent cette question et les enfants se disent, je vais quand même pas la rappeler, j'ai pas 8
mais
ans et demi.
Mais l'autonomie, ça se prépare depuis l'enfance.
Oui.
En fait, il y a quand même, il y a des étapes qui font que l'enfant devient de plus en plus autonome. L'adolescent
commence par aller à l'école tout seul et puis
donc il y a quand même une préparation. Et si justement les parents n'ont pas été trop sur le dos de leurs enfants, ils leur ont quand même appris au bout d'un certain temps à se responsabiliser, parce que c'est ça qui parfois leur paraît très 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 compliqué. Aux jeunes, c'est la responsabilité qui tout d'un coup pèse sur leurs épaules. Et donc c'est vrai que je pense que les parents qui responsabilisent un petit peu leurs enfants un peu tôt leur rendent service.
Bonsoir Anne.
Bonsoir.
Vous, semble-t-il, vous aimeriez bien mettre un petit coup de pied aux fesses de votre fils qui part tout seul.
Oui, c'est un petit peu ça. Quand j'entendais l'une de vos témoins dire on passe de la maison de mes parents à chez moi. Et chez nous, on a fait le choix parce que notre fils fait ses études dans la ville où on habite. On a toujours dit à nos enfants, ben, tant que vous faites vos études à Strasbourg, en l'occurrence, vous habiterez à la maison. Et puis là, ben, on commence à trouver le temps un petit peu long parce que notre fils cohabite à la maison. Je peux peut-être passer pour une mère indigne, mais ça devient compliqué. Je pense qu'il a 20 ans et un âge où ben, c'est bien qu'il parte, c'est bien qu'il fasse leur et qu'il soit vraiment autonome là à la maison. Un hôtel avec une super conciergerie, un lieu où on revient pour. Enfin, moi, j'ai dit que ça serait bien de partir pour mieux revenir quelque part.
Mais fermez la conciergerie, Anne.
Ah, il se débrouille déjà quand même. Il fait son linge. Mais voilà, c'est une étape pour grandir et j'ai du mal à assumer ce choix de plus en plus de me dire on leur a dit qu'elle resterait à la maison. On a une fille plus grande qui elle est partie en internat plus jeune, donc cet apprentissage elle l'a fait plus jeune et aujourd'hui elle vit loin de la maison et elle revient chez ses parents elle.
Je trouve ça vraiment chouette ce témoignage, merci beaucoup Anne. Il y a le moment où on doit apprendre à se séparer et il y a le moment où on a envie de se séparer.
Il y a un temps pour tout.
Il y a un temps pour tout, effectivement, mais je trouve ça intéressant parce que chez les ados, chez les post-ados, évidemment qu'il y a le moment où on veut que les générations se séparent, mais les parents aussi, quoi.
Bah oui.
Et ils ont totalement le droit, vous avez le droit, Anne.
Mais bien sûr qu'elle a le droit, parce que justement, la cohabitation avec des jeunes adultes, on ne peut plus les traiter comme des enfants de 12 ans à qui on demande de ranger les affaires, etc.
Et de se mettre à table en même temps que nous, etc.
Exactement. Ouais. Donc en fait, il y a un rythme qui n'est pas toujours adapté et c'est pénible pour tout le monde.
Je me demandais si vous aviez, vous, dans votre expérience, Olivier Rey, vu une différence avec les jeunes qui s'installent aujourd'hui et les précédents. C'est-à-dire que d'une génération, 5, 6 ans, 7 ans, 10 ans, est-ce qu'on a le sentiment qu'ils sont plus dégourdis aujourd'hui? Est-ce qu'ils le sont moins? Est-ce qu'on ne sait pas faire ce genre de distinction? Vous, qu'est-ce que vous en dites?
J'aurais un peu de mal à faire la distinction. Par contre, il y a des choses qui ont changé, des conditions objectives. Moi, je pense, par exemple, j'écoutais le témoignage qui se passe à Strasbourg. Ce n'est pas toujours évident dans les grandes métropoles universitaires où le logement est vraiment devenu cher, de pouvoir cohabiter à son gré. Et c'est encore plus vrai en région Île-de-France où je pense qu'il y a des jeunes qui restent chez leurs parents malgré eux, dans les deux sens du terme, parce que simplement, c'est strictement impossible de décohabiter. Il y a aussi, je pense, qu'il faut prendre en compte le fait, aujourd'hui, on a 3 millions d'étudiants en France. C'est pas les mêmes que les 2 millions qu'il y avait il y a 15-20 ans, ou que les 1 million qu'il y avait il y a encore plusieurs années. Aujourd'hui, il y a des gens pour qui les études, ce sont les premiers de leur famille à le faire, qui n'ont pas forcément un grand frère ou une grande sœur engagée. Donc, où tout est nouveau, c'est pas très simple, ils n'ont pas les codes. Et puis, là, on fait depuis le début comme si, en gros, il y avait un saut après le bac et puis c'était fini. Il faut dire la réalité, c'est que, y compris dans les études, après, il faut encore choisir. Il y a des réorientations, il y a des bifurcations, il y a des réussites, il y a des échecs qui sont rattrapés. Donc, voilà, il y a des choses qui se rejouent, qui sont importantes et qui peuvent, vous dire, induire, y compris des déménagements, des mobilités.
Après, le saut n'est pas forcément après le bac, d'ailleurs. Hein, souvent, effectivement, après le bac, on doit pouvoir se débrouiller un peu dans la même géographie, puis c'est après que ça devient plus compliqué. Regardez ce message de Lynn qui me fait rire, qui nous écoute bien sûr, et qui a écouté surtout le message précédent, notre auditrice qui disait « N'hésitez pas à être un peu relou avec votre enfant, parce qu'on ne sait jamais si ça se trouve, il se sent tout seul. » Et Lynn nous dit « Moi, je suis partie de chez mes parents, j'avais 18 ans, j'étais très contente, j'étais déjà assez autonome sur les choses du quotidien, et ça m'a sûrement aidée dans le milieu étudiant, j'ai vite rencontré du monde, et j'aurais détesté, majuscule, que ma mère débarque à l'improviste. Il me semble absolument nécessaire de s'assurer que l'enfant est d'accord pour recevoir ses parents avant de débarquer. » Moi, personnellement, j'avoue que j'adorais les tupperwares de ma mère et descendre de temps en temps, mais
moi, je suis assez
l'avoir
déboulé,
j'aurais fait une drôle de tête, je crois.
Ouais, mais moi, bon, je suis assez d'accord. Je pense que quand ils sont partis, il faut essayer, en tous les cas, pendant un temps, de voir comment ils réagissent et de quoi ils ont besoin, et de les laisser amener un peu la barque, quoi. Et pas être dans une peur constante qu'il arrive quelque chose et de se sentir indispensable, absolument.
Bonsoir Astrid.
Bonsoir. Non.
Alors vous n'allez pas pouvoir débouler à l'improviste chez votre fils?
Non, alors moi c'est ma fille.
Ah, c'est chez votre fille, pardon.
Bah en fait, ça fait un peu moins d'une heure qu'on vient de la déposer à l'aéroport de... On est de Rennes, et on vient de déposer notre fille à l'aéroport de Charles de Gaulle, et elle s'envole pour 10 mois à Hangzhou, en Chine.
C'est sûr qu'elle aura moins vos tupperwares. Hein.
Comment?
C'est sûr qu'elle aura moins vos tupperwares. Hein.
Ah oui, là, c'est clair, elle aura pas... Bah, ça fait déjà 2 ans qu'elle n'a plus de tupperware, parce que... Donc, nous, on est domiciliés à Rennes, et elle faisait ses études à Sciences Po Paris, sur le campus de Reims, donc depuis 2 ans. Donc là, ça a été une première étape, une première séparation, de la voir que 4 semaines à Noël, et puis puis qu'il a fallu qu'elle se débrouille. Et puis là, on passe à une nouvelle étape où elle part pour... Allô, j'étais coupée?
Non, pas du tout, vous êtes totalement là.
Et là, c'est une nouvelle étape, comme je disais. On vient de la déposer à l'aéroport, elle part pour 10 mois en Chine. Bon, c'était son choix, elle est super excitée, super contente. Nous, un peu moins. alors, on est ravis pour elle, et on lui dit qu'il faut qu'elle en profite. On sait que elle travaille énormément, qu'elle va s'accrocher, tout ça. Mais scolairement, on va dire. Mais bon, c'est une étape pour nous aussi de se dire qu'elle est pas, que moi j'anticipe déjà Noël. Noël, ouais. Elle sera pas là.
Ouais, ouais.
Et ça, c'est bon, bah,
faut s'en faire une raison, mais il n'y a pas de raison, ça devrait aller, quoi.
Ouais, ouais, ça ira forcément, mais on peut comprendre. Merci beaucoup pour votre normal, message, là-bas. Astrid. La Chine, c'est loin. Alors évidemment, on sait anticiper ça. On sait que la troisième année de Sciences Po, elle se passe à l'autre bout du monde, en tout cas dans le pays de son choix. Ou de ses voeux. Le décalage horaire est extrêmement défavorable dès lors qu'on est de l'autre côté en Asie. Ça s'apprivoise aussi d'un côté comme de l'autre, ça, pour le coup, Emmanuel Monnay.
Oui, tout à fait. Oui. C'est vraiment ces questions de réussir à trouver un équilibre, en fait. C'est ça, le départ. Et en fait, aussi, depuis tout à l'heure, on parle de quitter, mais on se rend bien compte, là, il y a beaucoup de témoignages de parents, beaucoup de témoignages d'enfants qui parlent du lien, et que partir, c'est pas couper le cordon, mais c'est transformer ses relations, et avec des contraintes, effectivement, si on est à l'autre bout du monde, mais où on peut pas forcément débouler à l'improviste, parce que je suis assez d'accord avec l'auditrice là qui a écrit, parce qu'en fait, ici, la question, c'est plutôt des questions des territoires, parce qu'en fait, l'enfant, lui, il peut rentrer chez lui d'ailleurs. Mm-hmm. Je rentre chez moi, donc il va retrouver sa chambre, son canapé, son fauteuil, etc. Où il exige quelque part quelquefois de retrouver aussi sa place. Mais là, c'est déséquilibré. L'enfant, le parent, la mère, elle n'est pas forcément la bienvenue si elle déboule à l'improviste. Donc c'est ça qui est intéressant de voir toutes ces négociations.
De savoir jauger aussi, effectivement.
Ce rééquilibrage des relations.
Le moment ou pas, etc. On a Fabienne du Crous de Créteil, figurez-vous, qui nous envoie un message sur WhatsApp et qui dit « N'oubliez pas le rôle des Crous dans l'accompagnement des jeunes adultes. Les Crous savent tout des épreuves que vivent les étudiants et étudiantes isolées. Nous sommes là pour les aider, les conseiller, les accompagner, leur permettre de créer du lien avec d'autres étudiants et même de faire face à leurs problèmes financiers. Il y a des équipes formidables de professionnels. On le croit sur parole, Olivier Rey, mais c'est vrai que c'est important. Ces organismes-là, et surtout, ce sont des portes auxquelles ils savent qu'ils peuvent frapper. C'est important de le savoir.
Effectivement, c'est qu'il y ait des services pour, à un moment donné, tendre la main quand c'est nécessaire, que ce soit sur des problèmes d'études, ou des problèmes sociaux, ou des problèmes, y compris pour se confier, parce que la question de la santé mentale, c'est important aujourd'hui chez les jeunes. Le problème, c'est que beaucoup d'étudiants ne les connaissent pas, ces services. Qui sait qu'il y a un service de santé étudiant sur son campus? Qui sait qu'il y a une permanence d'assistante sociale? Qui sait qu'il est possible d'avoir telle ou telle aide quand on fait face à une difficulté? Ça, c'est une vraie problématique. Et là, de ce point de vue-là, y compris aider l'autonomie, y compris de ces enfants qui vont en études, c'est aussi bien leur dire de chercher, de se documenter, de pas hésiter à demander autour d'eux qu'est-ce qu'il est possible d'avoir comme dispositif, service, comme coup de main. Parce que souvent, les cas les plus difficiles, c'est qu'on se recroqueville sur soi-même.
Exactement.
Et qu'on ne sait même pas ce
qu'il y a quelqu'un, une porte à laquelle on peut frapper, qui est vraiment pas loin. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à tous pour vos très nombreux appels.